Encore 20 secondes. Encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, partez.
Tous au poste.
Tous les postes de radio.
Sur Divergence FM.
Alors là, oui.
Tous au poste. Midi 13h.
17h. 18h. Agenda.
Nouveautés discographiques.
Interviews. Et informations internationales.
Tous au poste, tous au poste, tous au poste.
Je continue.
Je souffle du nez en même temps.
Place entre chaque
nouveau.
Je vais te mettre au rushing.
Nous parlons tous de la logosphère. Vous êtes ici, si vous voulez bien prendre la parole tout à l'heure. Avec moi,
c'est
le citoyen de la logosphère.
C'est le mot que je cherchais.
La radio.
Autrement.
Encore plus intense. Encore plus incisive.
Tous au poste.
La radio.
Vraiment. Pour tout le monde, comme la vie.
Tous au poste sur Divergence FM.
Tous au poste qui reprend du service après, après la quête des œufs de Pâques comme il se doit chaque lundi. C'est mardi 6 avril et aujourd'hui nous parlerons avec Florent Robin de la compagnie internationale Alligator qui investit les lycées de la région pour une manifestation intitulée « L'art de la rue au lycée ». Et puis dans la deuxième partie, nous parlerons archives départementales et notamment, entre autres, archives sonores. Ce sera au micro de Christian Coste. Nous ne manquerons pas de jeter une oreille à la nouveauté de la semaine, dont je vous donnerai le titre un peu plus tard, puisque tout de suite, on retrouve nos stagiaires qui trépignent d'impatience. Ce sont les bons plans tout de suite, dans Tous au poste.
Et on commence les bons plans comme d'habitude avec de la musique. Pour tous les ragamans, on vous propose le concert de Julus et les Chatawaris. Ce jeune groupe montpelliérain jouera les chansons de son premier album Jailus and Scandalous. C'est à 21h à l'Antirouille qui se trouve 12 rue Anatole France. L'entrée est libre.
Et si le reggae, c'est pas votre truc, peut-être que vous préférez le mix. À partir de 21h ce soir, rendez-vous au bar Le 8, 8 rue de l'Aiguillerie, l'entrée est libre. Et si le mix est toujours pas votre truc, on essaie avec du rock. DJ Stellou animera la soirée rock à l'Apollo Jazz Café à partir de 19h, avec en première partie l'école de l'IEFAR. Rendez-vous 19h à l'Apollo Jazz Café, 129 avenue de Palavas, l'entrée est libre.
Conférence maintenant côté création, une rencontre est organisée par Connexion Graphique pour les jeunes et futurs créateurs. C'est de 15h à 17h30 au comptoir de l'Arc, l'entrée est libre.
À 17h30, à la Faculté des Sciences, place Eugène Bataillon, se déroulera une conférence sur le thème « Faut-il un moratoire aux nanotechnologies ?». Le débat sera mené par Bernadette Benzod-Vincent et Gilbert Autois. L'entrée, quant à elle, est libre.
Peu importe le flacon, tant qu'il y a l'ivresse, une conférence sur le vin dans l'Antiquité, nectar des dieux, génie des hommes, c'est par Lionel Pernet, directeur au musée archéologique de Latte. C'est à 17h30 au musée Languedocien, l'entrée est de 3€.
À 18h, à l'école d'architecture, rencontrez Jacques Lucan, architecte et historien de l'architecture, sur le thème composition et opération, l'entrée est libre.
Vous êtes friand de sucre, de graisse, de plats surgelés, de fast-food et même dès le petit déjeuner, apprenons ensemble à mieux manger à la conférence intitulée « Je me sens bien dans mon assiette ». C'est organisé par la fondation Pilège et sera présent le docteur Didier Chaud, spécialiste en alimentation santé et micronutrition, qui vous donnera une bonne leçon. Au programme, diapo, débat et surtout, attention, un buffet. Rendez-vous à 19h30 à la salle Guillaume de Nogaret, à l'espace Pito, rue Pito. L'entrée est libre.
Café philo sur le thème « Le bonheur, ce n'est pas toujours la joie ». Alors dégustez un café avec comme thème Épicure. C'est à 20h30 à la brasserie du Dôme. L'entrée est libre.
Aujourd'hui et aujourd'hui seulement, on vous propose une journée sur le développement durable. C'est organisé au cours d'Hydereau, ça dure jusqu'à 18h, ça se passe 20 rue du Carré du Roi, l'entrée est libre. Et comme chaque mardi, nous sommes pauvres en bons plans mais pas en bonnes idées. Alors on vous propose une conférence sur le chamanisme sibérien, et oui, ça existe. Le débat sera animé par Soledad Altaï, qui est elle-même une chamane brésilienne. Trouvez vous-même le lien. C'est à 20h45 au centre de Yoga Yengar, 5 bis Enclos Tissier Sarus. L'entrée varie de 8 à 12€.
Voilà, effectivement, comme tous les lundis, même si on est mardi, on est pauvre en bon plan et on va donc passer à la nouveauté de cette semaine. Comme la semaine dernière et comme la semaine précédente, on va rester à Montpellier avec un groupe de rock montpelliérain dont on a la chance d'avoir l'un des musiciens en stage en ce moment. Il s'agit de The Cosmic Tortillas avec leur premier album, Welcome to the Cosmic Tortillas Wonderful Land. C'est le titre de cet album que l'on découvre tout au long de la semaine. Avec pour commencer ce premier titre, Walking Down the Street. Walking Down the Street, le titre qui ouvre le premier album des Cosmic Tortillas. Welcome to the Cosmic Tortillas Wonderful Land, c'est son titre. La formation Montpellier Rennes sera en concert cette semaine, ce sera jeudi 8, au bar Up and Down, rue du Pilat Saint-Gély, et on vous en reparlera bien évidemment.
Tous au poste, interview.
Tous au poste sur Divergence FM 93.9, Florent Robin au micro, et on va parler de théâtre, on va parler de théâtre de l'art de la rue avec la compagnie Alligator, et je reçois Marjolaine Combes, bonjour.
Bonjour.
Alors la compagnie Alligator, c'est une compagnie qui existe depuis plus de 30 ans.
Presque 30 ans.
Presque 30 ans.
Oui, une compagnie de théâtre de rue.
De théâtre de rue. Et je sais qu'il y a par exemple des choses qui se font au lycée. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, de présenter d'abord la compagnie, ce qu'elle fait un peu plus précisément, et de cet aspect, l'art de la rue au lycée?
Alors la CIA, donc la compagnie internationale Alligator, et qui est implantée à Villeneuve-les-Maglones maintenant depuis pas loin de 91, est une compagnie donc, qui crée des spectacles de rue, qui tourne dans toute la France, et son activité, une compagnie professionnelle. Et depuis 4 ans, elle a développé en marge de cela une autre activité qui est un lieu d'accueil en résidence, un lieu ressource, un lieu de sensibilisation aux arts de la rue, régional. Et c'est dans ce cadre-là que nous intervenons dans des lycées de la région, dans le cadre d'un programme régional qui s'appelle Languedoc-Roussillon Lycéen Tours, que le conseil régional a mis en place et dont l'objectif est de sensibiliser les lycéens à l'art, à la culture, de faire rentrer les artistes dans les établissements scolaires. Voilà, donc il y a 3 années scolaires maintenant, on nous a sollicité pour mettre en œuvre un projet autour des arts de la rue qui n'était pas encore présent dans ce programme régional. Donc on a commencé avec 3 établissements, puis 4, puis cette année 5, où on intervient à différents niveaux, de différentes manières, et notamment par le biais de la programmation d'un spectacle professionnel dans l'enceinte de l'établissement. Spectacle est choisi par les enseignants, c'est-à-dire que moi je leur propose 4-5 spectacles, créations, si possible récentes, si possible de compagnies régionales, et ils choisissent le spectacle qui semble le plus adapté à leurs élèves, au programme, là où ils en sont, etc. Mmh.
Voilà. Je sais que Julien Chamaudon, qui est journaliste à Divergence FM, a fait un reportage sur un de ses spectacles. C'était où? C'était quand?
C'était au lycée agricole Frédéric Basile à Montpellier. C'était mercredi dernier. Et c'était donc, en l'occurrence, le spectacle de la CIA, la création de l'année dernière, qui s'appelle 1789 secondes, et qui a donc été joué dans la cour, dans les espaces extérieurs de l'établissement.
1789 secondes, c'est un spectacle sur la Révolution française, si j'ai bien compris.
C'est ça.
Et c'est un spectacle qui entend présenter 6 ans de l'histoire de la Révolution française, c'est-à-dire les 6 grandes années de la Révolution française, de juillet, ou peut-être même avant, ça commence un petit peu avant.
Ça commence au cahier de doléances, donc un petit peu avant, voilà. Effectivement. Donc effectivement, l'idée de ce spectacle, c'était de balayer un petit peu, revisiter cette période de l'histoire de France. Le petit truc de 1789 secondes, c'était soi-disant en 29 minutes et quelques secondes. Évidemment, c'est un pari qui ne tient jamais, c'est pas possible, on est plutôt sur un format d'une heure. Mais bon, il joue quand même de cette histoire du temps là qui passe et qui fait que les choses vont très vite. C'est un spectacle qui est en mouvement, qui a été créé pour une rue, hein, plus que pour un lycée bien sûr, mais qui est tout à fait adapté aux établissements. Et donc les comédiens se déplacent comme ça et dans le temps et dans l'espace pendant cette heure et revisitent donc les grands moments de cette histoire là. Avec inévitablement une résonance avec des choses beaucoup plus actuelles, des clins d'œil à la fois humoristiques et à la fois très sérieux sur où on en est aujourd'hui de cette question des droits de l'homme.
Est-ce que c'est un peu dire faire comprendre le présent en parlant du passé?
C'est ça.
Voilà, c'est ça. Ce que j'avais noté, faire rimer l'histoire au présent, l'expression. Et comment s'est reçu ce spectacle, cette démarche par les lycéens?
Ben, on l'a fait dans 2 lycées. La veille, il l'avait joué au Vigan, au lycée André Chanson, toujours dans le même cadre. Ça fonctionne bien parce que déjà, c'est très dynamique. Il y a beaucoup d'humour. Il y a des décalages comme ça, un petit peu, des petites mises en abîme avec aussi des conflits qui peuvent naître entre les comédiens, la vie de la troupe, quoi. Hein. Donc, ça réagit bien, ça fonctionne bien. Il y a un rythme qui leur convient bien. Et puis, bon, là, on s'est adressé à des classes de première pour la plupart, voire seconde aussi à Montpellier, et ce sont des choses qui, enfin c'est une période de l'histoire qu'ils étudient et au collège et certains en seconde de nouveau, Donc c'est tout frais et voilà, je crois que c'est traité de manière assez sérieuse évidemment, mais ludique, légère et du coup ça réagit super bien avec cette idée aussi d'impliquer le public et ça tout le monde ne rentre pas dans le jeu, mais on a eu des groupes de lycéens très très engagés, très motivés qui ont suivi cette épopée-là aux côtés des comédiens. C'était rigolo, quoi.
Ces quelques années de Révolution française, il se passe quand même beaucoup de choses dans ces six années de 1789 à 1795. Donc je suppose que les comédiens jouent plusieurs personnages. Comment ça se passe
Oui, c'est ça. Ils passent de l'un à l'autre sans arrêt. Ils en ont, je ne sais pas combien, j'ai plus en tête, mais 3-4 chacun. Ça a nécessité effectivement une réécriture, des choix de la part de l'auteur, le directeur artistique de la CIA, Frédéric Michelet, du metteur en scène aussi, qui est un metteur en scène extérieur, suisse, qui a été sollicité pour, forcément, on ne peut pas tout retracer, quoi.
Oui, c'est pas du tout évident, surtout que c'est quand même une date fondamentale, c'est un moment fondamental de la République et il me semble tout à fait important de le revisiter pour le réexpliquer, surtout pour des lycéens.
Oui, en fait, ça fait le point sur des choses, qui sont loin dans le temps, mais qui sont pas si éloignées de nous et qui sont encore très présentes dans notre façon de fonctionner, évidemment, aujourd'hui. En France, quoi, entre autres.
Mais c'est vrai que le problème, souvent, avec les lycéens, c'est de se resituer au niveau chronologique, c'est-à-dire, c'est vrai que 1789, ça peut sembler très loin, et en même temps, c'est en même temps très présent dans notre conception du monde.
Oui, puis le souci de Fred, c'était aussi justement de faire le parallèle toujours avec l'histoire plus récente. Il y a introduit un personnage, par exemple, Paul Lame de Gouges, qui a à l'époque défendu les droits de la femme, qui n'a pas été entendue à l'époque, évidemment, qui a été guillotinée au final.
C'était une pionnière.
Et du coup, dans le spectacle, est évoqué le fait que il a fallu attendre 1945 pour que les femmes aient le droit de vote, par exemple. Donc c'est des combats qui peuvent paraître anciens à leurs yeux, mais dont certains ont vu finalement une espèce d'aboutissement qu'il n'y a pas si longtemps, quoi.
C'est vrai que les femmes ont été jusque dans les années 70 considérées comme mineures, c'est-à-dire qu'elles passaient de l'autorité du père à l'autorité du mari. Elles n'avaient pas le droit de signer des chèques et d'ouvrir un compte chèque. Ça, c'est pas si vieux que ça. Alors vous faites quoi dans la compagnie Alligator ?
Alors moi, je m'occupe spécifiquement de la partie lieu de résidence, c'est-à-dire dont le cœur de la mission est d'accueillir et d'accompagner des compagnies professionnelles de toute la France dans leur création, comme dénominateur commun de toutes ces compagnies, c'est qu'elles travaillent dans la rue, dans l'espace public. Leur projet se situe à cet endroit-là. Voilà, donc on les accueille, on les accompagne, on les aide financièrement, on les nourrit, on les héberge, on leur met à disposition des espaces de travail. Et puis, on peut organiser pour eux des sorties publiques, c'est-à-dire un temps de monstration publique d'une étape de travail. En général, on est sur des projets qui sont pas aboutis, mais qui ont besoin à un moment d'être confrontés à un public pour voir comment ça fonctionne, comment ça fonctionne pas, etc. On a d'ailleurs, si je peux le glisser, une sortie d'une compagnie qui est en résidence en ce moment chez nous, qui est le Bégat Théâtre, et qui fera une sortie samedi là à Villeneuve, alors sur réservation parce que c'est une jauge très limitée.
Alors ça sera où, quand ?
C'est à Villeneuve, je dévoile pas le lieu parce que comme c'est sur réservation, voilà. Donc pour toutes les infos, il faut appeler à la Téline, à la CIA, 04 67 69 33 00. Voilà.
Et comment est-ce que vous choisissez les compagnies qui vont être en résidence ? Ça se passe comment ?
Alors on reçoit un certain nombre de dossiers, et un nombre de plus en plus certains d'ailleurs, de demandes. On les étudie une par une. On a constitué ce qu'on appelle un petit comité, donc dans lequel il y a évidemment toute l'équipe de la Téline, de la CIA, qui a créé, qui anime ce lieu, et puis des membres extérieurs. Et on les étudie une par une sur des critères évidemment artistiques dans un premier temps, notamment une inscription assez forte dans l'espace public, une écriture spécifique à l'espace public. Entre autres, voilà, toutes les disciplines sont représentées, la danse, la musique, le théâtre, le mélange de tout ça, etc. Et puis après, on passe, on en sélectionne entre 7 et 9 par an.
C'est beaucoup.
On a réduit un peu pour pouvoir dégager un peu plus de financement pour les aider aussi, puisque ça, on y tient. Leur apporter des petits apports en production qui viennent abonder leur budget de création et leur permettre de notamment de payer les répétitions pendant qu'ils sont en résidence chez nous. Et voilà, donc entre janvier et juin, puis après entre septembre et décembre.
Au niveau financement, ça se passe comment? Vous êtes financé par qui?
On est financé par l'État, la région, le département et la ville de Villeneuve, avec pour certains des conventions et pour d'autres pas encore. On est relativement bien soutenu quand même, faut le dire. Après, jamais assez, bien sûr, pour aider davantage les compagnies. Puisqu'aujourd'hui, pour vous donner une idée, mais les petites coproductions qu'on apporte à chaque projet vont de 1 500 à grand maximum 5 000 euros. Ce qui est raisonnable, mais ce qui n'est pas énorme quand on connaît l'économie du secteur des arts de la rue aussi et ses difficultés, quoi.
Est-ce que vous auriez une définition de l'art de la rue? Qu'est-ce que c'est que l'art de la rue? Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, attendez, c'est du théâtre, c'est du cirque, c'est de la danse. Ce que j'ai compris, c'est un peu tout ça. Ça dépend aussi des compagnies.
C'est justement ce qu'on essaie de montrer aux lycéens quand on intervient dans les lycées, c'est que c'est tout ça. C'est qu'une des particularités des arts de la rue, c'est sa diversité. Donc quand on fait des interventions dans les établissements, on leur explique ça, qu'on peut trouver de la danse, du théâtre, du cirque, de la musique et j'en passe, de la vidéo, du multimédia de plus en plus évidemment, etc. C'est le reflet de ce qui est, de la création artistique en général. La particularité, c'est que les artistes font le choix à un moment, a priori, de jouer non pas dans des salles, dans des théâtres, mais dans un espace public ouvert, avec un public plus ou moins captif, plus ou moins passant, plus ou moins convoqué, etc. Après, ça, c'est libre choix du créateur de mettre en œuvre le dispositif qu'il souhaite. Mais qui s'inscrit vraiment pas que dans la ville, parce qu'il y a aussi parfois dans la campagne, mais en tout cas dans des espaces qui sont publics, partagés, dans la cité, dans la quotidienneté aussi de la vie qu'on y mène tous. Et voilà.
Il y a toujours une part d'impro, parce que j'imagine ça dépend des réactions du public.
Mais de fait, on est dans un...
C'est pas un public de théâtre habituel.
Non. Alors, on retrouve les mêmes, mais c'est un public plus large, en revanche. Ça touche plus de monde, a priori. Parce que aussi gratuité, etc., plus grande accessibilité, plus facile de venir...
C'est vrai qu'il y a des gens qui ne se déplacent pas au théâtre, qui ne font pas la démarche.
Oui, qui ne poussent pas la porte.
Parce que c'est pas une démarche. C'est une façon, le théâtre vient à eux.
Oui, parce que c'est pas une démarche simple, de pousser la porte d'un théâtre, c'est pas... Voilà. Donc, j'ai perdu...
On a perdu le fil. On parlait donc de la part d'improvisation.
Oui, de fait, on est dans un environnement vivant, qui continue aussi sa vie, et les artistes, a priori, peuvent pas trop faire sans tenir compte de ce qui se passe autour. C'est des choix aussi, ça dépend du dispositif qu'on met en place une fois de plus, mais il est vrai qu'il y a une part d'improvisation, ne serait-ce que pour tenir compte un peu de ce qui se passe autour, de la réaction du public, parce qu'il y a aussi un rapport au public un peu particulier, peut-être plus proche, parfois carrément interactif, mais pas tout le temps, enfin voilà. Donc c'est sûr que ça demande en tout cas aux artistes, qu'ils soient danseurs, comédiens ou autres, d'être à l'écoute de l'environnement dans lequel ils sont. Ils sont pas sur un plateau protégés par tout ce qui va avec un public en face qui est assis et qui apprécie, qui reçoit, etc. Mais avec qui il n'y a pas forcément un échange direct, autre que émotionnel ou... Voilà.
Et à propos de cet échange direct, j'imagine que le public que vous venez voir, que vous venez trouver, après il y a des réactions après le spectacle. Est-ce qu'ils viennent discuter avec vous? Est-ce qu'ils se disent, pour certains, je suppose que c'est leur première expérience de voir un spectacle?
Oui, parce que il y a pas de barrière, donc c'est a priori. Il y a peu de scènes, il y a peu de plateaux qui sont montés dans la rue. Enfin, on est sur un contact beaucoup plus proche et direct. Donc, effectivement, les gens s'autorisent, et tant mieux, à dire ce qu'ils ressentent, positif ou négatif. On le voit, nous, et on essaye un peu de l'instaurer, de le cultiver dans le cadre des sorties publiques, par exemple aussi, parce que ce que je vous disais, c'est que les artistes ont besoin de retour en cours de création, comme ça, dans leur processus.
Bien sûr.
Voilà, donc on l'instaure après par des temps un peu plus conviviaux, ou pour inviter les gens à donner un peu... c'est pas leur avis, j'aime pas, mais voilà comment ils ont ressenti les choses, qu'est-ce qui fonctionne pas a priori, là où ça accroche pas, enfin voilà quoi.
On va revenir un tout petit peu au lycée. On a parlé des lycéens, de la réaction des lycéens. Est-ce qu'il y a des ateliers d'ailleurs? Est-ce que vous organisez des ateliers pour confronter même les lycéens à la pratique du théâtre, à la pratique du théâtre de rue?
Oui, j'ai oublié d'ailleurs de dire que dans le cadre de ce dispositif, on travaille en partenariat avec l'association Eurécar, qui est l'organisatrice du festival La Belle Rue.
D'accord.
Voilà, quand même. Oui, je vous ai effectivement parlé des spectacles, mais il y a cette intervention un peu de sensibilisation un peu générale dont je parlais tout à l'heure aussi, qu'on mène auprès souvent de classes un peu ciblées, puisque le spectacle en général est ouvert un peu plus largement à toutes les classes qui le souhaitent pour en faire bénéficier le plus possible. Et puis depuis l'année dernière, on a introduit effectivement progressivement dans certains établissements des ateliers de pratique artistique. Alors, qui sont sur des volumes horaires assez faibles, une douzaine d'heures par établissement, donc on va pas très loin, ils créent pas un spectacle, etc. Mais avec la présence d'une comédienne ou d'un comédien qui a guéri aux arts de la rue, on va dire, les fait travailler pour justement sentir un peu les choses par la pratique, voir un peu ce qui diffère entre travailler dans un espace fermé, protégé, et aller le proposer à l'extérieur. Qu'est-ce que ça implique comme transformation, que ce soit au niveau du jeu, de la voix tout simplement, de petites astuces de mise en scène, de comment utiliser tout ce qui se présente, le mobilier urbain, enfin voilà, un banc dans la cour ou autre. Donc ça, on l'a fait avec trois établissements, je crois, ou quatre, non, même plus, cinq, pardon,
cinq.
Tous. Tous, mais à différents niveaux, puisqu'il y a des établissements qui sont avec nous depuis le début. Donc on est dans un processus d'évolution et de renforcement du dispositif. D'autres sont entrés cette année, comme à l'ODEV. Donc c'était vraiment un atelier de deux heures, c'était très court. C'était vraiment de la sensibilisation.
Et on a parlé des lycéens, mais au niveau des enseignants, vous avez des échos des enseignants par rapport au spectacle, par exemple, de 1789, par rapport à ce qu'eux, ils ont enseigné sur cette période de la Révolution française et l'écho que donne le spectacle?
Bah, ils sont ravis, évidemment. Ils sont ravis parce que... Alors, sur le spectacle en lui-même, je pense que Frédéric Michelet s'est attaché à être quand même fidèle à l'histoire. Enfin, voilà. Donc, il n'y a pas de contradiction avec ce que les enseignants ont essayé de transmettre à leurs élèves, mais évidemment c'est une façon plus vivante de transmettre ces choses-là, donc c'est venu en complément de leurs cours et ils étaient ravis, enfin ils étaient, moi je les ai vus, ils étaient à fond quoi, les profs, et ravis de cette autre approche qui peut-être remet une couche ou marque un peu plus les consciences des élèves, parce que on est dans quelque chose d'un peu plus vivant que... Et puis ça vient pas des enseignants, ça vient de l'extérieur, enfin c'est toujours pareil, c'est plus...
C'est un autre regard.
C'est un autre regard, oui. Donc voilà, mais de manière générale, ils sont de toute façon friands de ce qui vient un peu de l'extérieur de l'établissement, de la rencontre avec des artistes. On a souvent affaire aux profs de lettres, qui sont déjà eux souvent assez engagés, qui emmènent les élèves au théâtre, etc. Et qui découvrent là, au même titre que les élèves d'ailleurs, un secteur artistique qu'ils connaissaient pas du tout.
Et j'allais justement parler, on parle de lettres, au niveau du texte, comment ça s'est passé ce spectacle? Il y a eu un texte qui a été écrit ou c'est des extraits de...
C'est un mélange en fait, voilà. Il y a toute une partie écrite par l'auteur, par Frédéric Michelet, et après il est allé puiser dans certains textes de certains des personnages de l'époque, dont Robespierre, qui ont écrit visiblement de magnifiques textes et qui sont à un moment aussi dits par les comédiens. Donc voilà, c'est un mélange des deux quoi.
Bon, on va conclure sur l'actualité peut-être de la compagnie Alligator et de Ateline.
Elle part en tournée, là, ça y est, elle démarre une tournée importante avec ce spectacle qui a effectivement rencontré vraiment beaucoup de succès, et tant mieux. Donc qui va tourner dans toute la France jusqu'au mois de septembre-octobre, pratiquement non-stop. Là, ils sont actuellement à Paris, voilà. L'Ateline, eh bien, donc une résidence Béga Théâtre et une sortie samedi, je vous disais. Le samedi suivant, le 17, une sortie d'une compagnie qu'on a accueillie, mais l'année dernière, une compagnie de ci, de là, qui est une compagnie de Montpellier, avec un projet qui s'appelle Zéliste. Donc ce sera à 18h à Villeneuve. Et puis après, il nous reste encore deux autres compagnies à accueillir jusqu'à mi-mai, dont à la fin, une compagnie de danse contemporaine qui travaille dans l'espace public de Besançon, Jeanne Simone, et qui est là sur un temps de recherche pure. Puisque c'est aussi quelque chose qu'on a envie de développer, C'est d'être auprès des artistes et de les accueillir un peu à tout moment de leur processus, que ce soit l'écriture, la recherche, les répétitions, la finalisation du spectacle, du début à la fin quoi, du processus.
C'est une année bien remplie.
C'est une année bien remplie.
Les coordonnées de la compagnie Alligator.
Donc à Villeneuve-les-Maglones, au centre du village, le téléphone 04 67 69 33 00 et puis le site où il y a à la fois l'actualité de la compagnie et du lieu, www.cia-alligator.com.
Ben merci pour ces précisions et puis vous revenez quand vous voulez, dès que vous avez de l'actualité.
Avec plaisir.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Elle s'appelle Karimouche, ce qui est la contraction de son prénom Karima et de son nom de famille Amarouche. Elle sera en concert ce vendredi à la salle Victoire 2.
Encore un matin comme tant d'autres, la journée déjà bien entamée, j'essaie de me faire à l'idée qu'il faut que je me lève. Qu'il faut que je me lève. Je traîne de la savate pour atteindre la cafetière, la tête dans le fion, je cherche la révélation. Jette un œil dans la rue, les gens ne se regardent même plus, rien n'a changé depuis hier. Le même junkie vissé devant le tabac qui mendie, la même boiteuse avec sa gnôle à la béquille, les mêmes bagnoles pressées et qui se pressent et qui se scratchent en bas de mes escaliers. Et moi pendant ce temps-là, je bois mon petit kawa en regardant tout ça et je me chuchote tout bas. Pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça, et tra la 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 bla 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 bla. Et moi pendant ce temps-là, je bois mon petit kawa en regardant tout ça et je me chuchote tout bas. Pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça, et tra la 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 bla 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 bla. Un peu plus tard, le téléphone sonne. C'est Bécassine, ma cousine, qui vient d'être virée de son usine. Elle me déballe ses tracas, je lui demande si ça va. Elle me dit, tu m'écoutes pas, tu te fous de ma gueule ou quoi? J'ai la tête en vrac, les impôts me traquent. J'ai même pas de quoi me payer un sac et mon mec me plaque. C'est quoi cette vie, une blague ou une arnaque? Ça fait du bien de vider son sac à la famille. Et moi pendant ce temps-là, je bois mon petit kawa en regardant tout ça et je me chuchote tout bas. Pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça, et tra la 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 bla 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 bla. Et moi pendant ce temps-là, je bois mon petit kawa en regardant tout ça et je me chuchote tout bas. Pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça, et tra la 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 bla 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 bla. Je raccroche le combiné, je prends les clés pour aller voir le courrier. Un petit mot doux des acédiques pour m'informer que j'ai plus de fric. La journée commence très chic. Des petites bourgeoises qui pètent plus haut que leur cul et qui sont abonnées à l'ONU, qui parlent de la famine en repoudrant leurs petites mines. Nous sommes envahis par des vermines. Je me suis virulente contre les virus rapides, l'économie de ces raspivides, ces ours qui spéculent à la bourse, atteints de fièvre acheteuse, couchés sur leur pécule. Mais ces animaux-là ne traînent pas dans ma rue, protégés dans leurs zoos par une armée de blaireaux. Et moi je pense à ça, toujours derrière mes carreaux. Et moi pendant ce temps-là, je bois mon petit kawa en regardant tout ça et je me chuchote tout bas. Pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça, et tra la 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 bla 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 bla. Et moi pendant ce temps-là, je bois mon petit kawa en regardant tout ça et je me chuchote tout bas. Pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça, et tra la 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 bla 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 bla.
Tous au poste aujourd'hui, on se voit aujourd'hui pour parler des archives départementales. Mais qu'est-ce que c'est que les archives départementales? Moi, j'ai l'idée d'un endroit où les choses sont en poussière, où il y a une équipe de gens qui passent leur journée à dépoussiérer des trucs, où il y a des vieux films sur la construction de la Grande Motte, des trucs comme ça. C'est ça?
Oui, un petit peu.
Parce que qui va aux archives départementales et qu'est-ce qu'on y fait aux archives départementales? On vient chercher sa généalogie, on vient regarder si le voisin, si on est propriétaire, a pas plus de terrain que moi, si voilà, qu'est-ce qu'on vient y chercher?
Aux archives départementales, en fait, est engrangée toute la mémoire collective d'un département depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Donc les archives départementales de l'Hérault actuellement, c'est 40 km de documents. Le plus vieux document date de l'année 804, donc nous sommes à l'époque de Charlemagne, et c'est la dotation de l'abbaye de Gélonne, future abbaye de Saint-Guilhem-le-Désert. 40 km de documents manuscrits, sur parchemin, sur papier.
Quand vous dites 40 km, c'est 40 km
ouais, que 40 km linéaires. C'est-à-dire, ce sont des documents, des registres ou des liasses de documents qui sont côte à côte, comme des livres sur une étagère de bibliothèque.
D'accord.
Et quand on compte, ça fait entre 35 et 40 km de documents. Donc, à la fois des documents manuscrits, imprimés, iconographiques, cartographiques, mais également des films, des vidéos, et également, bien sûr, maintenant, des archives numérisées. Donc, il y a sur notre site internet archives.hérault.fr, il y a plus de 4 millions de documents numérisés, notamment des registres d'état civil, des registres paroissiaux pour les généalogistes dont vous parliez tout à l'heure, mais également des recensements de population qui aident aussi beaucoup les généalogistes à mettre de la chair autour de l'histoire de leur famille. Des plans également, les arpenteurs, les géomètres sont très intéressés par cela, notamment les plus de 4000 plans cadastraux de nos 342 communes de l'Hérault du début du 19e siècle sont visibles actuellement sur notre site internet, plus des affiches, des photographies, des cartes postales.
Et tout ça, c'est de la compétence du Conseil général de l'Hérault, tout à fait, oui. Et non pas régional. Parce que souvent, entend souvent des personnes qui ne savent pas trop les différences entre...
Tout à fait. À chaque étape administrative de la France, vous avez des archives. Au niveau des ministères, c'est les archives nationales à Paris. Au niveau des régions, les archives régionales. Au niveau des départements, archives départementales. Et au niveau des communes, archives communales.
D'accord.
Et donc, c'est une compétence obligatoire du Conseil général de l'Hérault.
Alors vous avez une actualité, on va en parler vite fait, puis après on va revenir un petit peu sur ce qu'on peut faire avec les archives et ce qu'on peut consulter, comment ça marche, etc. Donc l'actualité, c'est que vous aviez le 1er avril une expo sur la fabrication du papier, donc ça s'est passé.
C'était pas une exposition, c'était un atelier.
Un atelier.
En fait, un atelier de fabrication de papier. Donc sur le site de Pierre Vive. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Pierre Vive, donc c'est un bâtiment qui est actuellement en construction sur le quartier de la Mosson, au bas de la Paillade. C'est un grand bâtiment qui est à l'origine c'est une architecte anglo-irakienne qui est à l'origine de ce projet, Madame Zaha Hadid. Et dans ce futur bâtiment, justement, se retrouveront à la fin 2011, début 2012, les archives départementales de l'Hérault, la direction départementale du livre et de la lecture, et une association sportive à obédience départementale qui s'appelle Hérosport. Donc ces trois entités qui sont actuellement dispersées sur la ville de Montpellier se retrouveront dans ce beau et grand bâtiment à la fin de l'année 2011, début 2012. Jusqu'à ce moment-là, avant que justement l'ouverture de ce bâtiment, les archives départementales, comme les deux autres entités, proposent des activités au sein d'une petite structure en fait de sur ce chantier qui s'appelle la Maison du Projet, et dans laquelle justement les archives départementales proposent des animations, des rencontres, des projections pour animer ce lieu et montrer surtout ce que nous ferons. Ce que nous faisons déjà dans le quartier des Beaux-Arts actuellement, mais ce que nous ferons aussi quand le futur bâtiment sera construit et quand on y sera. Voilà. Donc au début du mois, on avait donc un après-midi consacré à la fabrication du papier, très très bel atelier. En soirée, on avait prévu une rencontre autour de la photographie de famille aussi. Qui était très 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 bien mené et qui permet surtout aux gens d'échanger en fait. C'est pas simplement une conférence, c'est vraiment on appelle ça vraiment une rencontre où les gens peuvent aussi prendre la parole et réagir par rapport au sujet traité.
Donc ça c'est pour le passé.
Voilà, ça c'est pour le passé.
Et pour le présent et l'avenir.
Voilà, pour le présent et l'avenir, donc en fin de mois d'avril, là, à partir du 26, dans la semaine du 26 au 30, les archives départementales vous proposent une exposition, donc toujours pareil, au sein de la Maison du Projet sur le chantier Pierre Vive, autour de la thématique architecture et citoyenneté.
Alors, architecture et citoyenneté, deux mots,
Oui. Alors, une exposition qui a eu lieu il y a maintenant quelques années, qui est itinérante et qui circule donc sur le département de l'Hérault et qui traite en fait de la citoyenneté civile, politique, sociale, culturelle et comment cette citoyenneté s'inscrit dans les monuments des villes, notamment les préfectures, les hôpitaux pour la citoyenneté sociale, les bibliothèques, les musées, pour les archives aussi, pour les la citoyenneté culturelle par exemple, et ces bâtiments qui se sont construits au fil des âges, eh bien les archives conservent des plans de la construction de ces bâtiments, et c'est l'occasion de montrer justement ces beaux plans d'ingénieurs ou d'architectes contemporains ou des époques passées qui sont à l'origine de ces bâtiments.
Donc j'imagine que pour ce type d'exposition, des élèves archi doivent être intéressés, ou des géographes, peut-être, j'en sais rien, peut-être pas, j'en sais rien. Et alors comment ça se passe? On y va, on se déplace à partir du 26, on y va de sa propre initiative, on pousse la porte, ou c'est plus compliqué que ça?
Non, c'est pas très compliqué, mais donc pendant toute la semaine, hein, cette exposition sera en place.
À la fin du mois.
Voilà, fin du mois, du 26 au 30, je le rappelle, et donc tous les jours, l'ouverture possible en tout cas de 9h à 17h. Avec une ouverture grand public le mercredi matin, hein, puisque même d'ailleurs sans ça, le chantier Pierre Vive et la maison du projet peut se visiter. Hein, le grand public est invité à visiter ce chantier tous les mercredis matins de 9h à midi et le samedi après-midi de 14h à 17h si mes souvenirs sont bons. Voilà. Mais pour cette expo en tout cas, le grand public donc pourra la voir le mercredi matin de 9 à 12. Pour les autres jours, il suffit simplement d'appeler donc les archives départementales de l'Hérault au 04 67 14 82 14 pour réserver.
Réserver. Ça, c'est le numéro de téléphone du standard des archives qu'on peut trouver sur le site internet archives au pluriel .hérault.fr.
Voilà, tout à fait. Et donc cette partie-là, donc pour pouvoir visiter et réserver sous forme de groupe constitué, hein, c'est pour qu'on vous puissiez à la fois la découvrir, mais également qu'on puisse aussi vous l'expliquer un petit peu et vous la présenter, hein, avec quelqu'un. Donc des groupes constitués d'une dizaine de personnes, de 10 à 20, 25 personnes, sans difficulté.
Bon, voilà. Pour celles et ceux qui sont intéressés par le sujet, vous vous rendez donc sur le site archive avec un S à la fin au pluriel .hero.fr et vous verrez dans Info Pratique, hein, vous trouverez toutes les informations, le téléphone, etc., les dates, etc., sur les opérations en cours à la fin du mois. Moi, je voudrais revenir sur les archives, ce que vous y faites. Vous me disiez que vous aviez aussi des archives sonores, archives Alors ça, c'est nous qui faisons de la radio, ça nous intéresse, ces archives sonores qui remontent à loin, qui ont été collectées comment
Oui, tout à fait, puisque c'est une de nos missions de collecter des archives, non seulement les archives papier, mais également, donc, je vous disais, des archives iconographiques et des archives sonores.
Mais c'est vous qui allez chercher ou c'est des gens qui viennent déposer? Comment ça se passe en fait?
Il peut y avoir, pour les archives publiques, ce sont des versements, donc de toutes les administrations sises sur le département de l'Hérault qui nous versent chaque année à peu près 600 à 700 mètres de documents. C'est la raison pour laquelle le lieu dans lequel nous sommes au Beaux-Arts.
On est dans le linéaire. Hein, aux archives de la notion de référence, c'est le linéaire.
Et voilà. Et donc, aux archives actuellement aux Beaux-Arts, nous sommes pleins comme un œuf. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous allons sur Pierre Vive. Et donc, nous avons cette politique de collecte, à la fois de collecte auprès des administrations, et les administrations donc, versent chez nous, mais également une politique de collecte auprès des privés et d'archives orales, notamment. Par exemple, les associations qui ont été l'ODAC, l'Office départemental d'action culturelle, qui ont travaillé pendant un certain nombre d'années pour le compte du Conseil général, ou le VAL, Vidéo Animation Languedoc, bien ont versé chez nous, lorsque ces associations ont été dissoutes, leurs archives.
D'accord.
Et qui se présente donc sous forme de films, de vidéos.
Une radio pourrait verser ses archives.
Exactement, bien sûr.
Et ça lui coûterait un max de blé, j'imagine, non?
Pourquoi? Non, c'est gratuit.
C'est gratuit. Alors, ce qui est génial avec les archives départementales, c'est que tout est gratuit. C'est-à-dire qu'on peut venir consulter gratuitement.
Oui, il suffit d'avoir une carte
d'identité. Non, c'est vrai, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, le service public, de temps en temps, c'est pas totalement gratuit.
Hein. Si vous avez à faire des photocopies, éventuellement, là, les photocopies sont onéreuses, mais la consultation des documents, les originaux, notamment sur place dans nos salles de lecture, est entièrement gratuite.
D'accord. On peut venir voir des vidéos de...
Oui.
très anciennes.
Oui, tout à fait, notamment des vidéos dont je vous parlais tout à l'heure, de vidéos animation en Languedoc, ou les photos qu'a prises l'ODAC au cours de ses actions sont visibles.
D'accord. Et vous avez, vous avez un truc avec les archives du monde bientôt.
Voilà, exactement. Ah, donc,
j'étais en train de revenir, j'avais oublié, c'était actuel à la fin du mois.
C'est l'actualité toujours. Donc, dans le cadre de cette semaine de fin avril, du 26 au 30, on ponctuera cette semaine-là justement par une projection sonore en partenariat avec une association qui s'appelle Archives du Monde, justement avec des sons issus du fonds des archives départementales de l'Hérault. Et pas seulement, puisque Archives du Monde aussi fera écouter en tout cas des sons qui, eux, sont issus de pays en voie de développement.
D'accord, pays en doigt. Ok, très bien.
Il y a peut-être des sons d'Afrique ou d'Asie.
Il y a peut-être des sons de Divergence, puisque Divergence est jumelé avec Radio Tabalé à Bamako, au Mali. Donc il est possible que ce jour-là, on écoute des sons qui ont peut-être été enregistrés par Manuel Plaza, qui aujourd'hui fait la régie de cette émission. Quelque chose à ajouter avant de se quitter sur les archives départementales. Donc c'est gratuit, c'est super. Vous êtes plein comme un œuf, j'imagine, ça n'avait rien à voir avec Pâques. Donc voilà, vous voulez dire que vous êtes content de déménager d'ici 2011, 2012 et quand que vous partez
Oui, 2012.
Quand
2012.
Ça sera fini, là-bas, au lieu Pierre-Vive, ça va s'appeler comment en fait?
Oui, Pierre-Vive.
Pierre-Vive.
La cité des savoirs et du sport pour tous.
Voilà, on a mis la tête et les jambes dans le même endroit.
Tout à fait.
Bon, une idée comme une autre. Et en attendant, c'est toujours aux Beaux-Arts.
Toujours aux Beaux-Arts.
Ok. Donc,
à la maison du projet, sur le site de Pierre-Vive, pour nos animations du mois d'avril.
Pas de regret de quitter ce quartier intéressant de Montpellier, non?
Lorsqu'on a vécu dans un endroit, il y a toujours un petit pincement au cœur, mais il y a les projets extraordinaires sur Pierre-Vive. C'est un bâtiment au niveau architectural qui méritera certainement le détour.
D'accord. Merci Régine Mazoric d'être venue nous parler des archives départementales. Fred Chauvet aussi, un mot à ajouter?
Plein de choses, oui, j'aurais ajouté si on a encore un petit peu de temps. Juste 30 secondes. Alors très très vite, c'est aussi les archives départementales, c'est pas uniquement sur le site même dans le quartier des Beaux-Arts, c'est aussi des activités, des ateliers, des rencontres, des projections possibles sur l'ensemble du territoire du département de l'Hérault. Il suffit là aussi de nous en faire la demande puisqu'on a un catalogue à disposition pour les mairies, les médiathèques, bibliothèques, associations, le monde associatif aussi, peuvent très très bien nous faire la demande de ce catalogue qui est très très riche. Et voilà, il faut en profiter.
Ok, toutes les informations, pareil, sur le site?
Toutes les informations sur le site, le catalogue se retrouve en effet sur le site, et puis après, avec le numéro de téléphone, s'il y avait besoin.
Je le redis encore une fois, archive au pluriel, .hero.fr. Merci à vous d'être venus, et bon vent à vos archives départementales.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Fin de cette édition de Tous au poste. Florent Robin, Christian Coste, Manuel Plaza, ainsi que nos nombreux stagiaires vous remercient. La suite des programmes sur le 93.9, c'est d'ici quelques instants une chronique littéraire signée Dominique Osnac, comme chaque mardi, pour peu que vous nous écoutiez entre midi et 13h. Et pour les auditeurs de fin d'après-midi, après la rediffusion de ce Tous au poste, vous allez pouvoir entendre, comme chaque semaine, l'hebdo du Sherpa avec David Beau. Ce sera suivi à 18h30 d'un mardi miam miam en compagnie de deux grands auteurs de bandes dessinées qui résident à Montpellier et que sont allés rencontrer Vincent Cavaroc et François Barrez. Il s'agit de Lewis Trondheim et Guy Delisle. Suivront les rendez-vous de l'international cacationniste à partir de 20h avec ce soir les impayables et illustres Nino Caster et Barba Caca. Et oui, c'est bien comme ça qu'ils s'appellent.